Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous pour cette première émission Osons la philosophie de l'année 2024. Cette émission est diffusée pour la première fois le 25 janvier 2024. Donc nous sommes dans les normes. Nous avons la possibilité de présenter nos vœux jusqu'au 31 janvier. Et Françoise, vous allez nous souhaiter des vœux ou en parler d'une façon, je dirais, négative, pessimiste, puisque vous avez intitulé ces deux émissions « Résister au désarroi ». Alors d'abord, comment présenter vos vœux en ce mois de janvier 2024?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. J'ai écrit quelques mots, ce que je ne fais pas d'habitude, et je vais vous les lire. Pardon d'être un peu, je dirais, scolaire, hein, limite. Hein.
Mais je crois que c'est prudent et voilà. Chaque mot est important.
Résister au désarroi, c'est le titre que je propose pour cette émission. Un titre un peu étrange, mais qui relève de l'affect, hein, le sentiment qui nous a anime aujourd'hui. Alors, vous parlez de pessimisme, mais résister au désarroi, justement. La résistance est un acte. Et nous verrons que c'est un acte de l'esprit. Car nous allons lire, je l'indique d'avance, nous allons lire à la fois quelques lignes d'Edgar Morin et surtout des passages qui me paraissent très essentiels de l'éthique de Spinoza, qui sont une invitation justement à l'action résistante. Alors, pourquoi le désarroi? Le nouvel an devrait inaugurer une rupture, une régénération à partir d'expériences personnelles ou collectives. Et pourtant, nous n'avons pas à souhaiter, à imaginer le prolongement de ce qui vient de s'accomplir. Nous avons donc ce sentiment parfois de stupeur, d'étrangeté, comme s'il nous arrivait quelque chose de tout à fait imprévu, inassimilable, d'où l'obligation de penser et donc de résister. Alors, je détaille. Aujourd'hui, il nous apparaît que de tristes événements, porteurs de désastres, j'emploie le terme, je parle de désastres géopolitiques, tristes événements, ces tristes événements étant voués à se poursuivre. Nous constatons en effet ce que certains appellent, et je reprends l'expression, une montée aux extrêmes. Bien entendu, aux extrêmes de la violence. Comme si les limites mêmes de la guerre étaient abolies. Il s'agit de la guerre. Et cela aux confins de l'Europe. Je mentionne évidemment l'invasion de l'Ukraine, depuis plus de 2 ans maintenant, et le conflit entre Israël et la Palestine. Un pogrom atroce, suivi d'une riposte démesurée. Je m'arrête, puisque nous sommes en philosophie et qu'il s'agit de penser, nous allons le voir avec Spinoza, je m'arrête sur le mot de montée aux extrêmes ou ascension aux extrêmes. Donc il a été forgé à partir de l'allemand, je vous fais grâce du concept en allemand, par le grand théoricien de la guerre, qu'est Karl von Clausewitz. Je rappelle, Clausewitz, 1870-1931. Que désigne donc ce concept? Car il s'agit d'un concept, plus qu'une notion descriptive, il s'agit d'un concept lié à la logique de la guerre. Que signifie la montée aux extrêmes? L'ascension aux extrêmes? Eh bien, une sorte de ligne de fuite, idéale en quelque sorte, vers la guerre absolue. Dans la mesure où, et là je cite Clausewitz, dans la mesure où la guerre, définition, et, je cite donc, « un acte de violence destiné à soumettre l'ennemi à notre volonté ». Violence, soumission, volonté. Elle relève d'abord donc d'une violence originelle, dans son élément de haine et d'hostilité. La guerre est du côté de la haine. Et je terminerai sur les impasses de la haine. J'indique à l'avance la phrase de Spinoza qui n'a l'air de rien, mais qui est très très forte, la haine est toujours mauvaise. Fin de la parenthèse. À cette logique de la guerre se noue donc ce module où s'oppose la finalité de la guerre. Une finalité de la guerre qui est définie par le politique. Nous connaissons donc la célèbre phrase souvent citée, la guerre est une continuité de la politique par d'autres moyens. Mais la guerre est sous l'autorité de la décision politique. Donc la guerre, ou plutôt son concept philosophique, désigne à la fois la tendance à la violence, une violence sans fin, et l'entreprise politique d'un règlement des conflits qui met fin à la guerre. Recours à la diplomatie, par exemple. Or, aujourd'hui, car nous parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la violence, ouverte par les conflits entre les sociétés et les États, s'exerce comme, apparemment, très certainement, des opérations d'anéantissement, visant à terroriser, et cela sans fin, à détruire les sociétés civiles, sans qu'une finalité, une limite, n'apparaisse clairement. J'insiste beaucoup sur ceci que... Il ne s'agit plus des guerres classiques même dont parlait Clausewitz, mais les guerres aujourd'hui ont pour visée la destruction des sociétés civiles.
Oui, il n'y a plus de respect du tout des lois internationales.
Alors ça, je vais y venir. Les lois internationales qui protègent justement, qui protégeaient le jus in bello, le droit de la guerre, interne à la guerre, qui devait protéger les populations civiles dans toutes les réglementations de la guerre sont suspendues. C'est vraiment contre les citoyens, les peuples que s'exerce cette violence. Donc je disais qu'aujourd'hui cette violence, donc, excusez-moi de me répéter, consiste à, oui, terroriser, voire anéantir les populations civiles. Et sans, encore une fois, qu'une fin politique, et c'est vraiment ce qui est caractéristique, n'apparaissent clairement. À nouveau, pensons, je reprends le même thème, la guerre en Ukraine, quelle en est la fin? Sinon, la fin délirante d'extirper les néo-nazis du gouvernement ukrainien. C'est un pur et simple délire. Et de l'autre côté, on ne voit pas dans la guerre ou le conflit plutôt entre Israël et Palestine, on ne voit pas une issue, même le dessin d'une issue. Donc nous sommes dans cet état, c'est pourquoi j'ai employé le mot de désarroi. Nous sommes dans un état de désarroi.
Ce que certains appellent un état de polycrise, en fait, dans tous les domaines, parce que vous avez parlé de la guerre, mais il y a aussi le réchauffement climatique,
il y a aussi les crises économiques.
Oui, bien sûr. Mais bon, là, on insiste vraiment sur les guerres. Et donc, vous avez, dans le monde d'aujourd'hui, il y a un texte d'Edgar Morin qui vous a semblé
Je vous le lirai à la fin de ma première prestation, si je puis me permettre.
Alors Françoise, vous parlez de désarroi face à la polycrise, face à la conjonction actuelle. Vous parlez aussi de résister, ce qui est tout de même une notion optimiste, j'allais dire. Et vous avez choisi la symphonie numéro 7 de Chostakovitch, qui a été écrite lors du siège de Leningrad, qui est peut-être le symbole de la résistance, ce siège de Leningrad en 1942.
Oui.
Ça a été une horreur complète, mais aussi un tournant de la guerre.
Oui, oui, oui. Donc, ce choix est très, j'espère qu'il est judicieux, parce qu'il correspond tout à fait à ce que je pressens comme absolument nécessaire, c'est-à-dire une réactivité forte à ce sentiment, à cette passion triste, parce que je vais introduire, bien sûr, la problématique de Spinoza, à cette passion triste que nous ne pouvons pas ne pas dans un premier temps exprimer et subir.
Alors vous avez choisi pour les deux émissions des passages du Moderato où il y a tout de même une certaine allégresse,
un certain espoir. Thank you.
Eh bien, sur Radio Alliance Plus, nous continuons cette première émission de Françoise Gernot, ou avec Françoise Gernot, Résister au désarroi. Et c'est une émission de philosophie. Que peut faire la philosophie?
Indéniablement, une émission de philosophie. Que peut faire, en effet, la réflexion philosophique en face de ce désastre qui produit en nous cet affect, le désarroi? Alors, je voudrais peut-être aggraver encore notre situation, ou plutôt notre déception de philosophe, parce que la philosophie, depuis sa tradition, a tenté d'élaborer. Elle a tenté d'élaborer des ressources précisément pour énoncer des principes pour une vie digne de l'humanité. Et ces principes d'une vie digne de l'humanité qui ont été élaborés, je vais proposer quelques jalons, elle apparaît bien en suspens. Alors la question, c'est bien, avons-nous les moyens d'analyse, les ressources pour résister au désarroi, notre affect dominant aujourd'hui?
Alors,
quelques jalons pour marquer notre isolement, voire notre déception de la situation actuelle, eu égard aux efforts, aux tentatives de la philosophie, précisément, comme je le disais à l'instant, pour penser, élaborer les principes d'une vie en commun qui soit digne de l'humanité. Quelques jalons donc. La pensée philosophique, dès l'origine, dénonce la violence excessive, la démesure. Ce que les Grecs appelaient hubris.
Et
j'avais proposé une émission sur cette notion de hubris, de démesure, qui est véritablement impliquée dans ce que je disais tout à l'heure à propos d'une montée aux extrêmes dont nous ne voyons pas la fin dans les deux sens du mot, c'est-à-dire à la fois la finalité et puis l'arrêt, quoi.
Il faut qu'à un moment ça s'arrête. On pense à la guerre de 14-18.
On le sait bien. Et c'est pour ça que dans les éditoriaux, on met en suspens la question du monde d'après. Alors, ce monde d'après, nous savons bien que l'expression a été aussi très insistante au moment de l'expérience du Covid. Le monde d'après. Et ce monde d'après est évidemment inconnu. Alors, je reviens à la pensée philosophique et à la dénonciation par la philosophie justement de la violence comme en quelque sorte quelque chose de primordial pour toute la pensée ultérieure dans la tradition philosophique. Je propose cette citation de Héraclite. Oui, Héraclite. Voilà ce que dit Héraclite. Héraclite l'obscur, avec toujours ses formulations énigmatiques. La démesure, dire l'hubris, doit être éteindre. Pardon, la démesure, l'hubris, donc, doit être éteinte plus que le feu. Le feu. Le feu est une image, évidemment, de ce désastre, de cette violence que nous vivons. Ça joue par le feu. Ça se joue sur le feu. Donc, pour la pensée grecque, qui est une pensée de la mesure, l'action au cœur de la vie humaine, au cœur de la vie civique, c'est-à-dire la praxis droite, supposait la vertu de prudence, l'estimation rationnelle d'une fin à accomplir et, bien sûr, la qualité de modération. Nous le voyons, bien sûr, en particulier dans l'éthique d'Aristote. Nous reparlerons du mot éthique. Grand saut, deuxième jalon, la philosophie des Lumières avec Kant élabore, en effet, un projet de paix perpétuelle, c'est-à-dire une construction contractuelle juridique qui doit renoncer au règlement des conflits par la guerre. Il s'agissait pour le moins de définir une limite à la destruction, ce qu'on appelle le jus in bello, le droit à l'intérieur de la guerre, interne à la guerre, donc une limite à la destruction entre elles des puissances belligérantes. Alors, je rappelle, citant de mémoire la phrase de Kant, il ne faut pas que dans la guerre, il y ait des actions, ou des exactions plutôt, qui rendent impossible le retour à la paix entre les peuples. Or, nous sommes tout de même, dans cette situation, aussi bien pour l'Ukraine que pour le conflit Israël-Palestine. Et c'est ça qui rend les choses très, très, très dramatiques, parce que s'il s'agissait de guerres ou de conflits plutôt, hein, de conflits ponctuels fondés sur une cause, comment dire, plausible, traitable, négociable. Bon, ce serait triste, comme dirait Spinoza, mais pas plus. Or là, non, c'est plus grave.
Et puis, on lit souvent dans tous les éditoriaux, c'est aux portes de l'Europe. Donc
oui,
là, on faillit un peu par ce danger européen. L'Europe est en
oui.
danger. On se sent moins, davantage concerné que dans d'autres conflits.
Parenthèse, l'Europe paraissait être, justement, à partir du kantisme qui avait tout de même imprégné, je dirais, par exemple, le système institutionnel de l'Europe, nous sentions dans une sorte de d'espace de paix. Mmh. Or, la guerre est à nos frontières. Et la guerre est d'autant plus à nos frontières qu'à l'intérieur de nos populations, il peut y avoir des partis pris d'un côté comme de l'autre. Mmh. Et cette question-là, elle sera abordée lorsque je lirai, je parle donc sous l'autorité, je le lirai, d'Edgar Morin. Mmh. Hein? Je voulais simplement dire aussi, pour renouer avec ce que vous dites, c'est que l'esquisse kantienne, c'est elle qui avait inspiré les règles institutionnelles internationales après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Alors souvenons-nous de cette réflexion juridique, hein, grâce à laquelle étaient élaborées, d'une part, les notions de crime contre l'humanité et celles de génocide. Donc, je mentionne pour l'élaboration juridique du crime contre l'humanité, l'œuvre de Lauterpacht, Herschel, qui est mort en 1960, et pour ce qui concerne le crime de génocide, qui est évidemment une question en jeu aujourd'hui, les travaux, je trouve très essentiels, de Raphaël Lemkin. J'avais donc consacré, souvenez-vous,
une émission à
ce propos. Constatons que cet ordre mondial s'est effondré. Et nous en sommes, les spectateurs, atterrés, presque incrédules, angoissés et livrés au désarroi. Alors, une angoisse qui est redoublée par la menace sur les équilibres naturels. Nous ne pouvons pas ne pas éprouver ce qu'on appelle en même temps l'éco-anxiété. Ouais. Alors comment faut-il penser ses affects et peut-être, à partir de ses affects, nous redresser, hein, ces affects qu'à partir de Spinoza, Gilles Deleuze appelle les passions tristes. Mmh. Donc tout le propos sera de penser, de désarticuler, mais aussi de surmonter ces passions tristes. J'ajoute encore que l'injustice de l'extrême violence, pour nous, philosophes, est scandaleuse parce qu'elle se justifie par la falsification de la vérité. Mmh. Bon, l'entreprise de Poutine et puis le mépris aussi cynique de la vérité des faits, la vision unilatérale d'une situation dramatique par rapport à une autre.
Oui, il réécrit totalement l'histoire, en fait.
Oui, hein, alors je ne parle pas simplement de Poutine et de Vladimir Poutine, mais aussi de ce qui se passe au Proche-Orient, parce que là, j'avance et j'avance prudemment. Je me réfère à la consigne, vous savez, au sceau de Spinoza, avec lequel il y a cette formule « chaoté ». Prudemment. J'essaie de m'avancer le plus prudemment possible. Mais je ne peux pas ne pas dire qu'il y a deux versions opposées, violentes, je dirais de faits qui sont, eux, irréductibles.
Falsification de la vérité, réécriture de l'histoire et propagande. Hein. Je pense que ça va.
Oui, et propagande, mais ce n'est pas tant la propagande qui me gêne que le discours même des hommes politiques. Qui est un véritable choc de violence, qui produit un choc de violence. J'ai écrit ces lignes. Alors, je m'en excuse encore. Ce que je viens de faire est une lecture, ce qui est tout à fait de ma part, avec quelques commentaires libres, grâce à vous, Sylviane. Mais je m'en excuse parce que ce n'est pas ma forme de prise de parole habituelle. Et puis, il se trouve qu'au moment où j'écrivais, quand il s'agissait d'écrire, après avoir écrit depuis au moins une semaine, je tombe dans Le Monde d'aujourd'hui, je l'ai reçu hier en avant-première, sur un article d'Edgar Morin qui me paraît tout à fait nécessaire pour, d'une part, analyser la situation et d'autre part, ouvrir tout de même peut-être pas aussi ouvrir une issue à ce qu'il appelle lui le désespoir. Donc je vais vous lire ce passage.
Alors je rappelle simplement que Edgar Morin va sur ses 103 ans, qu'il a donc vécu un siècle de vie, d'événements, et que sa parole est très prudente justement, mais en même temps très forte.
Oui, alors je dis que c'est notre boussole morale, j'aime bien cette expression.
Donc vous lisez, c'est l'article du Monde donc du 23 janvier 2024.
Oui, c'est ça. Donc l'article du Monde, je répète, du 23 janvier, donc aujourd'hui, au moment même où nous enregistrons.
Alors ce n'est qu'un court extrait que vous lisez, bien évidemment.
Le titre s'appelle « Face à la polycrise que traverse l'humanité, la première résistance est celle de l'esprit ». Et c'est ce thème de résistance de l'esprit que je vais mettre en avant, et justement en articulant Edgar Morin sur Spinoza, ou Spinoza sur Edgar Morin. Voici. Nous sommes entraînés dans une course vers le désastre. La première et fondamentale résistance est celle de l'esprit. Elle nécessite de résister à l'intimidation de tout mensonge asséné comme vérité, à la contagion de toute ivresse collective. Elle nécessite de ne jamais céder au délire de la responsabilité collective d'un peuple ou d'une ethnie. Elle exige de résister à la haine et au mépris. Elle prescrit le souci de comprendre la complexité des problèmes et des phénomènes plutôt que de céder à une vision partielle ou unilatérale. Elle requiert la recherche, la vérification des informations et l'acceptation des incertitudes.
Oui, je l'avais lu, vous m'aviez fait lire l'article avant de cette émission et moi j'avais été très frappée de dire est-ce que le monde peut changer ? Il avait l'air de dire qu'on ne pouvait plus orienter, enfin faire changer ce qui se passe actuellement.
Alors, même, je vais parler pour lui, pardon, mais même si la situation apparaît comme désespérée, il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller, encore une fois, à ce que Spinoza, et je pense qu'il est très spinoziste, il le dit d'ailleurs Edgar Morin dans une interview que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas se laisser aller à la passion triste. Il faut réagir, et on ne peut réagir que par la force de l'esprit. Est-ce que c'est ce que je vais essayer de démontrer, ou de montrer plutôt en lisant justement Spinoza ? Quelle est la ressource ? Quelle est notre ressource pour justement, ayant éprouvé cet affect, de le surmonter, pour le surmonter ?
Enfin, il n'y a pas que Spinoza, vous avez choisi Spinoza, il y a des philosophes qui ont des visions totalement différentes, où justement il n'y a pas ce recours à la résistance. Donc,
Je suis spinoziste. En tout cas, pour cette question-là, je suis profondément spinoziste.
Alors, dans cette première émission intitulée « Résister au désarroi », avec plus de lectures que d'habitude, vous avez rédigé des textes, Françoise, pour aller avec prudence, mais avec cette volonté de résister. Et nous avions écouté un court extrait de la symphonie numéro 7 de Chostakovitch. Et je vous propose que, pour une fois, nous finissions avec un autre extrait de ce moderato qu'on pourrait appeler « Résister à l'épris ». Merci Françoise et à très bientôt.